Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Cette perturbation qui amène en ce moment quelques averses sur le tiers nord du pays fait subir un ciel vraiment pluvieux et orageux sur les deux tiers sud, en particulier sur l'Occitanie, l'Auvergne et la vallée du Rhône.
Et cet après-midi, les températures sont en très légère hausse.
Oui, même si l'ambiance reste de saison et n'évolue pas beaucoup, le mercure atteint 17 à 22 degrés, localement 22 à 24 sur le sud-est et 21 à Tarascon et jusqu'à 25 à Ajaccio. Dans le sud du pays, le régime d'averse est quand même moins actif et côté Méditerranée, le soleil est même généreux.
Merci Magali Rochereau et merci à vous d'écouter France Inter. Il est 7h.
Le journal Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, une nuit relativement calme à Nouméa.
La capitale de la Nouvelle-Calédonie coupée en deux entre quartiers encore aux mains des émeutiers et zones privilégiées. Nous serons à Nouméa dès le début de ce journal. Les parlementaires en France, en métropole, plaident pour une mission de dialogue et un report de la réforme constitutionnelle qui a mis le feu aux poudres. La Moselle repasse dans le rouge, alerte maximale aux crues ce matin. Les surveillants pénitentiaires lève le mouvement de blocage des prisons, mais leur mobilisation a quelque peu désorganisé les tribunaux. Et puis un champion français de BMX en lice aux Mondiaux avant les JO de Paris. On l'écoutera à la fin de ce journal, il s'appelle Romain Maheu.
À suivre sur Inter, 30 euros la consultation de médecins dès la fin de l'année. Proposition de la Sécu au syndicat qui réclame une revalorisation à 7h50. Nous serons avec le directeur général de la Sécurité sociale, Thomas Fatome. Et à 8h20, entretien avec un homme rare au cœur du conflit au Proche-Orient, Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine.
France Inter. En Nouvelle-Calédonie, la nuit a été relativement calme, d'après les autorités. 6 jours après le début des émeutes sur l'archipel français, déclenchées par une réforme constitutionnelle sur le corps électoral. Une école et deux entreprises ont toutefois été incendiées. Certains quartiers de la capitale Nouméa sont toujours aux mains des émeutiers. Bonjour Charlotte Manvi.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante sur place. Alors à quoi ressemble la capitale ce matin ?
Nouméa est désormais quasiment coupée en deux. D'un côté, le centre-ville où ce matin, des véhicules blindés encerclaient le commissariat. Les quartiers nord où chaque nuit, les émeutiers vont au contact des forces de l'ordre à coups de pierres et de cocktails Molotov. Des quartiers inaccessibles en raison des nombreux barrages parfois piégés de bouteilles de gaz qui entravent la circulation et où les habitants ne sortent que pour tenter de trouver de quoi manger. De l'autre côté, les quartiers sud, privilégiés de Nouméa. Ici aussi, on est barricadés. Ce sont cette fois des habitants qui ont entravé les rues par peur des pillages. Dans les premiers jours, avec ce qu'ils ont pu trouver dans leurs arrière-cours ou sur les chantiers voisins, morceaux de tôle ou chicane en plastique, et qui sont désormais bien installés. Par endroits, ce sont de véritables murs qui s'élèvent, gardés par des riverains souvent cagoulés. Dans cette havre, une partie de la population semble se sentir en sécurité. Loin du bruit des émeutes et du rationnement alimentaire, certains se baignaient ce matin ou déjeunaient au restaurant.
Merci Charlotte Manvi. Depuis Nouméa et les pénuries, vous en parliez, qui touchent notamment les pharmacies. Anne Coulon-Gilbert est pédiatre dans la capitale. Pour aider les tout-petits, elle organise, via le réseau Facebook, l'échange de médicaments entre familles.
Les premières demandes que j'ai eues, il y a eu des enfants qui vomissaient et on n'avait pas d'antivomitif dans la pharmacie familiale et on ne pouvait pas aller dans les pharmacies. Il y a eu des pharmacies qui ont été brûlées encore cette nuit. Il y a des enfants qui n'ont plus de lait maternisé. On est obligé d'essayer d'inventer des astuces pour économiser le lait pour les petits. C'est quand même dramatique, quoi. Il y a des conteneurs sur le port, mais on est dans l'incapacité de dépoter ce qui est sur le port. Les acheminements ne sont pas sécurisables pour l'instant, mais les besoins, ils sont aujourd'hui et maintenant.
Propos recueillis par Faustine Calmel. L'archipel reste sous état d'urgence hier soir à Matignon. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que des députés de tous bords, ont plaidé pour une mission de dialogue. Plusieurs demandent le report de la réforme constitutionnelle.
À Gaza, les premières livraisons d'aide humanitaire ont commencé via la jetée flottante construite par les États-Unis.
Et les combats, pendant ce temps, sont toujours aussi intenses, notamment dans le nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne annonce savoir rapatrier le corps de 3 otages enlevés le 7 octobre par le Hamas. En Israël, la mobilisation continue contre la guerre et pour le retour des otages. Parmi les citoyens qui défilent tous les samedis, les Arabes israéliens sont quasiment absents. Beaucoup craignent des représailles. Reportage à Haïfa, ville symbole de la coexistence entre juifs et arabes, de Farida Noir et Fabien Gosset.
Dans ce bureau de tabac à Kramla-sur, il est libre ici à Haïfa de manifester pour le retour des otages et contre le gouvernement.
Oui, oui, la police veille sur l'ordre. Il n'y a jamais eu de problème avec eux.
Mais ce sentiment de liberté, Mohamed la vingtaine ne le partage pas. Ils ne vont pas vous dire que ça ne va pas parce qu'ils ont peur, dit le jeune homme. Lui ne participe à aucun rassemblement.
Si on se fait arrêter, ça peut avoir des conséquences sur nos études ou si on fait un prêt immobilier. Et on ne sera pas libéré facilement alors qu'un juif le sera. Les Arabes sont opposés à la guerre, mais ce n'est pas quelque chose que l'on va dire en public ou dans les rues. On se sert plutôt des réseaux sociaux. C'est là que j'exprime mon opposition, je like, je partage des contenus sur ça.
En octobre dernier, après une manifestation non autorisée en soutien à Gaza, Kobi Shabtai, le chef de la police israélienne, avait menacé les Arabes israéliens de leur mettre des bus à disposition s'ils veulent retourner à Gaza. Isaac est restaurateur.
Je ne veux pas qu'on me voit dans des manifestations. De toute façon, de ce que je vois dans les manifestations, la police ne fait pas de distinction entre un juif ou un arabe. Elle arrête et frappe tout le monde. Malheureusement, c'est ça la police que l'on a maintenant.
L'ONG Mossawas, qui veut dire égalité en arabe, constate une hausse des discriminations systémiques à l'égard des citoyens arabes d'Israël depuis la guerre, comme des arrestations ou encore des agressions.
Reportage Farida Noir et Fabien Gosset. En France, premier cap franchi pour le projet de loi sur la fin de vie. En commission cette nuit, les députés ont approuvé le texte qui prévoit de créer une aide à mourir. Examen prévu dans l'hémicycle le 27 mai. Ils sont sortis satisfaits hier soir du ministère de la Justice. Les syndicats de surveillants pénitentiaires appellent à lever le mouvement de blocage des prisons après l'attaque d'un fourgon mardi dans l'heure où deux agents ont été tués. Ils ont notamment obtenu la multiplication des auditions en visioconférence pour limiter les transferts de détenus. Entre procès suspendus et audiences reportées, ces blocages, Delphine Evenou, ont fortement perturbé l'activité des tribunaux.
C'est toute la chaîne pénale qui est touchée, des commissions d'application des peines au juge d'instruction qui doit annuler confrontation et reconstitution en passant par les assises et la correctionnelle. Les tribunaux s'organisent au fil de l'eau avec d'abord des visioconférences comme à Nanterre où un procès d'assises en cours depuis début mai s'est terminé avec 4 détenus en distanciel. Mais cet outil n'est pas une solution miracle, explique maître Delphine Boisel, membre de l'Ordre des avocats.
Pour l'avocat, ça implique de faire un choix à un moment ou à un autre, d'être soit aux côtés de son client, soit aux côtés de la juridiction. Mais pour être aux côtés de la juridiction, il faut avoir au préalable pu préparer l'audience avec le client. Et si nous sommes dans l'impossibilité de rentrer en détention pour préparer l'audience avec le client, la visioconférence ne peut absolument rien régler comme situation.
Quand la visio n'est pas possible, les tribunaux renvoient les affaires. Et là aussi, ce n'est pas indolore, souligne Nelly Bertrand, secrétaire général du syndicat de la magistrature.
Ces affaires viennent se surajouter aux affaires qui sont déjà prévues pour les audiences futures. Et on sait déjà qu'il y a un contexte de surcharge de ces audiences avec des délais d'audiencement qui sont très très longs et donc qui risquent de s'aggraver.
Si les extractions de détenus sont rendues compliquées, les envois en détention après jugement, en revanche, ne semblent pas pâtir du mouvement pénitentiaire.
Delphine Evenou, alerte maximale aux crues. En Moselle, le département est repassé en rouge à 2h ce matin. Météo France prévoit des crues historiques sur la rivière Niers. La situation est impressionnante mais pas dramatique, précise la préfecture. On ne déplore ni morts ni blessés. Hier, les habitants de Frémin-Merlebach ont toutefois été surpris par la montée des eaux.
L'eau est rentrée dans les caves. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont inondés, quoi. Une bonne trentaine de bâtiments, quand même. Sans compter les voitures qui sont sous l'eau.
Bah, c'est impressionnant, quand même. Ça fait des années qu'on n'a plus vécu ça. Dans les années 80, c'était assez régulier qu'il y avait des inondations avant qu'ils canalisent le Merle, je pense. Mais là, ça fait 25-30 ans qu'on n'en a plus vu ça.
C'est hallucinant de voir ça. Très choquant, vu qu'il y a beaucoup d'enfants et avec des familles. Donc, il y a déjà 2 bébés qui ont été évacués avec plusieurs familles. D'être voir ça, là, maintenant, ici, à Frémin, c'est rare.
Des témoignages recueillis par Natacha Cadur de France Bleu Lorraine Nord. Le préfet appelle les automobilistes à absolument respecter les barrières devant les routes inondées.
Et puis Corinne, aux Jeux Olympiques, on le sait, l'important ou l'essentiel même, c'est de participer.
Et les athlètes français, justement, sont en plein processus de sélection en BMX Race. 6 Français sont en lice pour 3 places. Ça va se jouer notamment aujourd'hui aux Mondiaux de Rock Hill aux États-Unis. Le champion du monde en titre, Romain Maheu, espère réitérer l'exploit.
Il y a moins de pression, mais dans un sens, j'ai aussi envie de défendre mon titre. Donc, j'ai à cœur de bien faire. C'est une course que je vais préparer avec l'objectif de gagner. C'est vrai que les Jeux, c'est l'objectif principal, mais de pouvoir gagner les championnats du monde une deuxième fois d'affilée, ce serait quelque chose qui a été fait qu'une fois dans l'histoire du BMX. Donc ce serait encore plus rentré dans l'histoire. Et voilà, je me suis un peu habitué à porter ce maillot arc-en-ciel et si je peux encore le porter encore au moins un an, ce serait cool.
Voilà, Romain Maheu avec Fanny Lechevestrier.
C'était le journal de Corinne Audouin. À suivre, Zoom sur le gaz renouvelable.
Aujourd'hui sur France Inter, handicap, innovation et emploi dans On n'arrête pas l'écho.
Samedi 9h, Alexandra Ben Saïd.
À 100 jours des Jeux Paralympiques, on va parler d'insertion professionnelle et aussi zoomer sur ces start-up décomplexées qui ont décidé que le handicap était un nouveau marché.
On n'arrête pas l'écho, l'actualité et les coulisses de l'économie.
Tous les samedis sur France Inter, après le journal de 9h.
Avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur CARAC.
Un monde presque parfait, le nouveau best-seller de Laurent Gounel. Parce que choisir sa vie, c'est choisir son monde, David Lissner se risque à une mission de haute sécurité pour sauver sa société hyper connectée. Mais pourquoi David fait-il exactement ce qu'on attend de lui? Sur son chemin, Ève, une jeune femme libre, n'entend pas se laisser dicter sa vie. Un monde presque parfait, de Laurent Gounel. Un roman initiatique qui donne envie de retrouver son pouvoir de décision et sa liberté. Aux éditions Mazarine.
On sait que certains pensent qu'un téléphone dernier cri...
Bah, c'est pas donné.
Et que le reconditionner...
On sait pas toujours sur quoi on tombe.
Mais chez Orange, les téléphones reconditionnés sont testés et vendus avec une garantie commerciale de 24 mois. En plus, du 16 au 22 mai, c'est la semaine du reconditionné. L'occasion idéale pour découvrir notre sélection à prix réduit.
Ah, alors là, d'accord.
Orange est là.
Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine du 16 au 22 mai 2024, réservée aux particuliers. Conditions en boutique et sur orange.fr.
Merci d'écouter Inter, il est 7h11.
Le 6-9, Ali Badou, Marion Lourd, sur France Inter.
Il et elle sont tous là pour la prochaine demi-heure. Alain Baraton, Anna Sigalevitch, Laurent Delmas. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Laurent, vous êtes en duplex de Cannes, premier week-end du festival et un premier bilan en forme de Tour du Monde.
Oui, je vous emmène au bout de la terre, Ali.
Emmenez-moi et dans la main verte, Alain.
Voilà. On va parler du plus grand acteur de tous les temps.
Et puis Anna, de quoi sera-t-il question dans Classic & Co?
On va parler aussi d'un des plus grands pianistes de tous les temps. C'est son anniversaire aujourd'hui. Sanson François aurait eu 100 ans.
Mais tout de suite, le zoom. En 2050, plus aucun gaz fossile ne sera importé. C'est la volonté du gouvernement qui vise la souveraineté totale en la matière. Le gaz consommé en France sera produit en France et les géants gaziers l'appellent gaz vert ou biogaz. Un gaz dit renouvelable car non fossile et issu de la méthanisation agricole ou industrielle. Bonjour Martine Abbat.
Bonjour.
Vous avez visité la centrale de méthanisation de Couëvron en Mayenne, exploitée par Engie.
On va arriver sur la partie où on vient broyer la matière.
C'est Stéphane Evesard qui nous guide. Il est responsable d'exploitation.
Et une fois qu'elle est broyée, on l'envoie dans ces deux gros dômes que vous voyez derrière, donc les deux gros cylindres qu'on voit avec le dôme. C'est ce qu'on appelle les digesteurs.
Dans ces dômes de métal et de plastique, on mélange des résidus végétaux agricoles, des lisiers, des fumiers, des déchets de l'industrie agroalimentaire. Mais aussi, on y met ce qu'on appelle des cives. Des cultures intermédiaires à valorisation énergétique. Ces cives ont été expressément cultivées pour alimenter les méthaniseurs. Toutes ces matières se décomposent et produisent du gaz.
Dans ce digesteur, on a une température de 38 degrés. La matière, elle est digérée en 50 jours à peu près, entre 45 et 50 jours. Au-dessus de cette matière qui est en décomposition, la partie que vous voyez, les dômes, c'est ce qui retient le gaz. Donc on peut aller voir à l'intérieur par le petit hublot, on va aller voir la matière qui s'y gère. Le seul problème, c'est que nous allons rentrer dans une zone ATEX. Donc je vais vous demander de couper le micro, juste le temps d'aller voir à l'étage
à quoi ça ressemble.
ATEX, c'est atmosphère explosive. Donc on est allé voir par le hublot. Et ce qu'on voit, effectivement, c'est une matière assez liquide.
Qui est noire.
Qui est mélangée.
Qui est mélangée en permanence. Et les petites bulles qu'on pouvait voir au-dessus, c'est toutes les bulles de gaz qui s'échappent de la matière. Donc voilà, toute la tuyauterie que vous voyez là, c'est vraiment le cheminement du biogaz et qui est injecté après directement sur le poste GRDF qui se trouve juste au bout de la route.
Et donc là, il y a un compteur pour savoir combien vous produisez.
Voilà. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il sort 200 m3 de gaz par heure.
combien vous alimentez de...
Alors aujourd'hui, la centrale des Couévrons permet d'alimenter 2000 foyers à l'année.
Et pour soutenir le développement de la filière gaz vert, l'État, via l'agence ADEME, accorde des subventions aux nouvelles installations. Mais il garantit surtout sur 15 ans le tarif de rachat du biogaz, tarif subventionné 2 à 3 fois plus élevé que le cours du marché du gaz.
Alors, ensuite je vous ai mis présentation du business plan et échange avec les banques afin d'obtenir un préaccord bancaire.
Pour les agriculteurs français, la production gazière apparaît comme une nouvelle source de revenus. Ce matin, une dizaine d'entre eux sont en formation à la méthanisation à Limoges, au lycée agricole. Ils souhaitent se lancer, s'endetter aussi, pour des installations à près de 10 millions d'euros.
Vous faites le bilan sur vos capacités de financement. Examinez ce qui vous reste. Faites le point sur l'accord des subventions. Et donc là, se passe le moment d'aller voir les banquiers avec un dossier qui est ficelé, qui est construit, sur la partie technique, agronomique et financière.
Un grand intérêt de la méthanisation, c'est qu'aujourd'hui, on part avec un contrat sur 15 ans. Aujourd'hui, les animaux se vendent plutôt bien, le marché a l'air de se maintenir. Mais qu'est-ce qui se passe demain ? Qu'en méthanisation, vous partez sur un business plan de 15 ans qui rassure...
Dans lequel on va vous acheter votre gaz à tel prix.
Le prix est maintenu.
Les céréales, quand elles ont flambé avec la crise ukrainienne et que là maintenant, elles sont complètement rebaissées encore à cause de l'Ukraine, parce que nous, on est confrontés à des choses qui nous dépassent et sur lesquelles on n'a pas de prise. Là, au moins, on a une prise. On peut monter un projet qui a une vraie dimension économique, qui a une dimension environnementale, qui a une dimension sociale, qui organise des choses. Moi, je l'ai dit à mon père qui a 84 ans, c'est l'arrivée du tracteur dans nos fermes, là. C'est une autre révolution.
Le fait de devenir énergéticien.
Ah, c'est une autre révolution agricole.
C'est un autre métier.
Mais c'est l'arrivée du tracteur parce qu'on est vraiment en train de s'inscrire dans une autre démarche là. Oui.
Biogaz, une révolution dans nos champs, point d'interrogation. C'est un reportage de Martina Batte à écouter en longueur demain dans Interception. Ce sera dès 9h10 ou dès maintenant sur vos applis. Il est 7h15 et en direct du Festival de Cannes, il fait là-bas son cinéma. Laurent Delmas, vous êtes avec nous en direct.
Mais oui.
Et c'est le premier week-end. Le festival a pour vous des allures de guide touristique mondial, Laurent?
Oui, le Festival de Cannes n'a ce matin que 5 jours d'existence, à peine, et il ressemble déjà à la salle d'embarquement du plus grand aéroport éphémère du monde.
Ah oui.
Vous voulez un exemple des destinations proposées aux festivaliers depuis mardi dernier? Alors écoutez plutôt ceci, et à vous de deviner dans quel pays nous sommes.
Une idée, Marion?
Pas du tout.
Eh bien, Alain le polyglotte n'a non plus la part que lui parce que nous sommes en Roumanie. Et c'est un film en course pour la Palme d'Or. 3 kilomètres jusqu'à la fin du monde. Soit le récit de l'agression d'un jeune homme qui fracture tout un petit village de la plaine du Danube. C'est ça, Cannes. Tout d'un coup, à 15h, dans le grand théâtre Lumière du Palais des Festivals, vous vous retrouvez au fin fond de la Roumanie rurale durant 1h45. Un dépaysement garanti et plus encore, une plongée dans des réalités locales que le touriste moyen ne risque pas de découvrir. Car la plupart du temps, Ali, les films vus ici multiplient les pas de côté et nous épargnent les clichés éculés. Oui, depuis mardi, nous sommes allés sans bouger de nos confortables fauteuils rouges ou bleus.
Oui.
En Roumanie donc, mais aussi, tenez-vous bien, aux Philippines, en Zambie, en Suède, au Canada, au Cambodge, au Maroc, en Chine, à Macao, en Islande, en Bulgarie, en Norvège, au Japon. Je n'ai plus de souffle.
Sans bilan carbone.
Voilà Mario, exactement. Tout bon écologiquement. Et je ne vous parle que des films vus depuis l'ouverture des festivals.
Hein, oui, bien sûr.
Car il nous reste encore 7 jours de films et de cinéma sans discontinuer jusqu'à samedi soir et la cérémonie de clôture. 7 jours ailleurs, encore et toujours pour sillonner le monde en tous sens. La cinéphilie est décidément un sport de touristes exigeant et curieux de tout.
Et vous êtes un grand sportif.
Mais vous me connaissez, une taille de guêpe. C'est ainsi que la Britannique Andrea Arnold se met dans les pas de Ken Loach pour nous dépeindre la vie quotidienne d'un squat dans le nord du Kent, bien loin des cartes postales royales. Quant au Marocain Nabil Ayouch, avec Everybody Loves Touda, il fait d'une femme émancipée son héroïne qui rêve de devenir une Sheikhna.
Une Sheikhna.
Chéra, ah, vous avez meilleur accent que moi. Chanteuse et danseuse traditionnelle, scandaleuse et talentueuse, sans tabou.
Et Laurent, les films ne sont pas le seul reflet de cette diversité internationale.
Et en effet, Marion, les différents jurys rassemblent des artistes venus du monde entier. L'américaine Greta Gerwig y côtoie la turque Ebru Çelen. La belge Lubna Azamal siège aux côtés du serbe Vladimir Perichik, tandis que la sénégalaise Maïmouna Ducouré fait face à la luxembourgeoise Vicky Krieps. Quant aux journalistes présents pour couvrir le festival, une écrasante majorité d'entre eux sont étrangers.
Donc vous êtes minoritaire.
On est absolument minoritaire et c'est très bien ainsi. Bref, Cannes, chaque année, est comme une Babel du 7e art. Pour s'en convaincre un peu plus encore, revenons au film proprement dit. Premier long métrage du cinéaste Jonathan Millet, un Français mais ayant vécu à Alep, Les Fantômes a fait l'ouverture de la semaine de la critique. Eh bien, il est inspiré des histoires vraies de Syriens en exil, devenus détectives amateurs pour pister des anciens tortionnaires du régime de Bachar al-Assad. Film aussi glaçant que documenté. Autre exemple radicalement différent de ce voyage permanent auquel Cannes nous convie, ces quatre courts-métrages présentés à la quinzaine des cinéastes est venu, oui, des Philippines, mais co-réalisés avec des cinéastes indiens, malaisiens, cambodgiens et singapouriens. C'est reparti pour un tour du monde. Un peu comme une nouvelle internationale, hein, sans lutte finale, mais qui fait qu'ici, à Cannes, durant 15 jours, on sera le genre humain. Mais les États-Unis, me direz-vous? Eh ben, ils sont en effet revenus en force cette année avec notamment Megalopolis, hein, le nouveau Coppola que vous avez interviewé hier, Ali.
Oui.
Tenez, on y entend même du Beethoven dans ce Coppola, tendance allégro de sa 7e symphonie. Une bonne façon de passer le relais à Anna Sigalevitch.
Merci Laurent Delmas et on vous retrouvera tout à l'heure à partir de 10h dans On aura tout vu avec Christine Masson, évidemment en direct de Cannes.
Oui, trois cinéastes en studio avec nous et un premier bilan des films présentés.
Et merci beaucoup, merci. Laurent Delmas et bon festival.
Le 6-9 sur France Inter.
Et c'est l'heure de la main verte avec le jardinier préféré des auditeurs de France Inter, Alain Baraton. C'est Cannes en ce moment, le festival, et vous en profitez pour nous parler d'un des acteurs les plus appréciés au monde, et pourtant personne ou presque ne connaît son nom.
Il s'appelait François Clair, il s'est fait connaître quand les films étaient muets et en noir et blanc, et même si la scène qu'il a rendue célèbre ne dure que 49 secondes, il méritait, c'est mon point de vue, au minimum une palme d'or à Cannes.
Et dans quel film jouait-il et quel était son rôle alors?
Pour résumer le film, parlons du scénario, il est simple. Un jardinier arrose son potager quand un galopin pose le pied sur le tuyau. L'eau ne coule plus et notre homme regarde alors l'embouchure pour voir si elle n'est pas bouchée. À ce moment précis, notre farceur enlève son pied et l'eau asperge le visage du jardinier. C'est ainsi qu'est né le film « L'arroseur arrosé ».
Ah, c'est ça le rapport avec la chronique jardinage alors.
Oui.
Et le premier rôle interprété au cinéma était donc celui d'un jardinier. Et
mieux encore, François Clair, dans la vraie vie, était un vrai jardinier. Il était celui de la propriété où fut tourné le film en 1895. Le premier acteur de tous les temps, Marion, était donc un confrère. Et excusez, je n'en suis pas peu fier.
Oui, je vous comprends. On passe aux questions des auditeurs, Alain, qui sont nombreuses comme d'habitude. Denise vous demande comment distinguer les fleurs mâles des fleurs femelles de la courgette.
Et oui, la courgette, comme toutes les courges, c'est une plante dite dioïque. Il existe des pieds mâles et des pieds femelles et des fleurs mâles et des fleurs femelles. Et effectivement, beaucoup de jardiniers s'étonnent parfois d'avoir des fleurs et pas de fruits. Parce que pour qu'il y ait des fruits, il faut qu'il y ait des fleurs mâles et donc des fleurs femelles. Eh bien, la fleur femelle se reconnaît à la boursouflure qu'elle a à la base et qui contient l'ovaire. Donc c'est extrêmement simple. C'est cette fleur que l'on observe le mieux, celle qui a la grosse boursouflure, c'est la femelle. La mâle, elle, est plus discrète. Elle est généralement à l'extrémité des tiges et elle est sous les feuilles.
Et les deux se mangent?
Les deux se mangent, oui, tout à fait.
Et Pauline aimerait savoir...
Mais les deux se mangent, mais celle qui est vraiment réputée, c'est la fleur femelle.
Ah d'accord, très bien. À partir de quand faut-il tailler ses pieds de tomates, vous demande Pauline?
Encore faut-il devoir les tailler. On va déjà tailler les feuilles qui touchent le sol. Ça, quand les feuilles touchent le sol, c'est pas bon. La plante prend l'humidité et risque d'attraper la maladie. Ensuite, c'est le dilemme. Si l'on taille la plante, le pied de tomate, on aura moins de tomates, mais les fruits seront plus gros. Alors que si on ne taille pas, on aura plus de tomates, mais avec des fruits plus modestes. À vous de choisir. moins de fruits, mais gros, ou plus de fruits, plus petits.
C'est votre choix cornélien, Pauline.
Eh oui, eh oui.
Louise veut savoir s'il est encore temps de semer dans le jardin les concombres et les carottes.
Oui, oui, on peut le faire tranquillement, il ne faut pas trop tarder non plus. Mais effectivement, c'est la pleine saison pour les concombres, la carotte, le ciboulet, toutes les aromates en général, le navet, les potirons, autres courges, etc. C'est peut-être mieux d'avoir attendu. Vous avez vu les torrents de pluie qui sont tombés un peu partout en France. Et quand vous avez semé des plantes dans de telles conditions, eh bien souvent les graines sont lessivées et partent. Parfois, c'est la petite plante qui a germé et qui va être complètement détruite par l'excès d'eau. Donc, avoir attendu un petit peu de temps, c'est pas forcément du luxe.
Et c'est jusqu'à quand qu'on peut les semer ?
Fin mai, mais après, ça devient un petit peu trop tard, je pense.
Louis Samuel vous pose une question. J'ai au centre de ma pelouse un chêne dont l'extrémité des branches est sèche. Est-ce grave ?
Oui, c'est une descente de cime, ce qui veut dire que la plante n'a plus les moyens de propulser à l'extrémité des branches la sève. La plante amorce sa dégénérescence. Il peut vivre ainsi 100 ans, 200 ans, 300 ans encore, mais c'est une descente de sève. La plante, comment dire, ne va pas très bien. Et si vous le permettez, Marion, très rapidement, je voulais signaler deux manifestations ce week-end importantes. Au château de Chantilly, ce sont les journées des plantes. Tout ce week-end, c'est l'incontournable fête des plantes. Et puis également dans l'abbaye de Val-Sainte, c'est dans à Simiane-la-Rotonde, en Provence, dans la Haute-Provence. C'est le Festival des Roses qui va durer encore pendant quelques temps jusqu'au 2 juin.
Et on espère que pour l'occasion, le soleil pointera le bout de ses rayons.
C'est certain.
C'était La Main Verte. Merci Alain Baraton.
Le 6-9 sur France Inter.
7h25, Classic & Co avec vous, Anna Sigalevitch, et vous le disiez tout à l'heure, donc on célèbre ce matin un anniversaire d'un pianiste légendaire, Samson François. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui.
Oui, hasard heureux du calendrier, puisque j'ai chronique aujourd'hui, et un amour assez inconditionnel pour Samson François. Noir, fine moustache, costume chic et clope au bec, Samson François, c'est un personnage extrêmement romanesque, fantasque et mystérieux, dont la personnalité et le jeu, surtout, ne peuvent laisser indifférent tant il se dégage de son piano une imagination et une intensité qui vous saisissent. Ce qu'il faut surtout, disait-il, c'est qu'on n'ait jamais l'impression qu'il faut jouer la note qui suit.
Samson François est né donc un certain 18 mai 1924 à Francfort.
Oui, il est pas mal ballotté dans sa petite enfance, en Italie notamment, où des programmes témoignent de sa précocité, annonçant il concerto eccezionale dell'enfant prodige, pianiste et compositeur de 7 ans.
Installé ensuite à Nice avec sa famille, Anna, il est repéré dès l'âge de 11 ans par un grand pianiste, Alfred Cortot.
Oui, qu'il envoie à l'école normale avec Yvonne Lefébure, puis au conservatoire avec Marguerite Long, qu'il immerge dans la musique française avec des compositeurs comme Ravel, dont on écoute une valse noble et sentimentale. Le premier prix du concours Long Thibaud, sa carrière est lancée avec au cœur de son répertoire Chopin, dont il est un interprète unique. Samson François est un peu l'incarnation du pianiste romantique. Chopin semble écrit pour lui. Il y a dans sa façon de jouer une énergie et un souffle extraordinaire. On a le sentiment que tout naît en direct, comme s'il improvisait. « Là, je vais vous faire une confidence. On arrive à une des phrases musicales que j'ai, je crois, le plus écoutée de toute ma vie. Adolescente, oui, je la mettais en boucle. Et je me suis surprise à recommencer en préparant la chronique. Et chaque fois, ça me prend aux tripes. Attention, écoutez.
Vous faites du air piano pour nos auditeurs qui n'ont pas la vidéo.
Sanson François était un homme qui brûlait la vie. C'était un noctambule, fumeur et buveur de whisky. Et après un infarctus en 68, dont il n'avait eu que faire, 2 ans plus tard, un nouveau malaise lui fut cette fois fatal. Il était en pleine séance d'enregistrement d'une intégrale de Debussy. Il avait 46 ans.
Sanson François, c'est donc l'un des plus grands pianistes français du XXe siècle. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui. Merci infiniment, Anna, et merci à Anne Weinfeld pour la réalisation.
Tous les dimanches matins à 11h sur France Inter, on va déguster.
Bonjour Monsieur Echtebech.
Ce dimanche, Philippe Etchebest, qui se cache derrière le tablier du chef le plus cathodique de France. Ses étoiles Michelin, son titre de meilleur ouvrier de France, sa carrière télé.
Finalement, ce que je fais dans le cauchemar, c'est pour aider les gens.
Sans oublier ses meilleures recettes, on reçoit Philippe Etchebest pour une grande masterclass en public.
Le chef Philippe
Etchebest.
Les masterclass dont va déguster.
On se retrouve de 11h à midi
sur France Inter. France Inter, partenaire des Nuits de Fourvière, Festival international de la métropole de Lyon du 30 mai au 25 juillet. Théâtre, danse, cirque et concerts. Parmi 60 spectacles, découvrez The Pulse par les acrobates de Gravity and Other Miss, Angélique Kidjo accompagnée par l'Orchestre National de Lyon, les pianistes Katia et Marielle Labec, mais aussi PJ Harvey, R et Zao de Sagazan. Les Nuits de Fourvière, un événement France Inter. La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Magali Rochereau, la météo en un mot, toujours de l'air froid en altitude sur le proche Atlantique.
Oui, la situation reste la même. C'est encore cette goutte froide qui pilote le ciel sur les 2/3 du pays. Du midi Pyrénées au massif central, on a toujours des cieux crevant d'éclairs et des trombes et ailleurs des averses et un ciel nuageux.
Merci d'écouter France Inter. Merci Magali Rochereau. Il est 7h32.
Le journal. Laurence Thomas, bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Dans ce journal, retour sur l'incendie d'une synagogue à Rouen. La communauté juive était tout de même réunie hier soir pour la prière du Shabbat. La Nouvelle-Calédonie, réunion hier soir à Matignon avec les présidents de l'Assemblée et du Sénat. Conclusion, il faudrait reporter le congrès censé entériner l'élargissement du corps électoral. Logement et Jeux Olympiques, une nouvelle alternative aux plateformes à Britel ou Airbnb, l'échange de maisons.
Et bientôt 30 euros la consultation chez le généraliste. Tarif proposé par la Sécurité sociale pour décembre. Y a-t-il de quoi satisfaire les médecins, résorber les déserts médicaux? On en parle à 7h50 avec l'invité de France Inter, Thomas Fatome, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie.
France Inter. Vive émotion hier soir lors de la prière du Shabbat à la synagogue de Rouen. L'office s'est déroulé sous surveillance policière quelques heures seulement après l'attaque qui a partiellement incendié la synagogue et au cours de laquelle l'incendiaire a été abattu. Une communauté sous le choc, c'est le reportage de Louison Leroy de France Bleu Normandie Rouen.
Des fidèles, les yeux humides, se couvrent le nez et la bouche au moment de la prière. Elle a pourtant lieu à l'extérieur, dans une cour à l'entrée de la synagogue. Mais l'odeur de brûlé est encore très présente.
Je suis sorti prendre l'air un peu parce que ça fait mal au cœur, quoi.
Ariel, 14 ans, s'engouffre à l'intérieur de l'édifice, entre les gravats.
Tout est détruit, c'est honteux, les murs. Heureusement, ça n'a pas brûlé à l'intérieur, là où la Torah elle est, mais c'est choquant, quoi. J'en ai la boule au ventre, carrément, c'est ignoble.
Il n'y a pas de mots.
Marc Benaïm, ancien président de la communauté juive de Rouen.
C'est une synagogue qui était bien entretenue, qui était propre. On a vécu des moments depuis notre enfance.
Et de voir l'office se tenir, c'était essentiel.
Bien sûr, c'est important. C'est important pour nous.
sentiment qui domine chez beaucoup de fidèles, c'est la tristesse. Un autre, Marc, lui, a senti du réconfort lors du recueillement.
On s'est serré les coudes, on a fait notre office comme si rien n'était. Le matériel est parti, mais le spirituel est toujours présent et vivace, et on est toujours là, et c'est ce qu'on a voulu s'exprimer entre nous.
La synagogue sera fermée pendant plusieurs semaines de travaux pour réparer les dégâts dont le montant n'a pas encore été chiffré.
Louison Leroy de France Bleu Normandie-Rouen. En Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre a réuni hier soir à Matignon les présidents de l'Assemblée et du Sénat, ainsi que la plupart des présidents de groupe, pour évoquer les conditions d'un retour à la paix civile. Tous sont d'accord, ou presque, il faut reporter le vote de la réforme du corps électoral. Pendant ce temps, à Nouméa, le parquet a ouvert une enquête contre les commanditaires des émeutes des derniers jours. Mais selon Dominique Fauchy, le secrétaire général de l'Union calédonienne, les indépendantistes ont toujours réclamé le dialogue, et pour lui, ils n'ont pas été entendus.
Ça fait plusieurs décennies qu'on le dit, c'est que la paix en Nouvelle-Calédonie, elle est fragile. On ne peut pas faire fi de l'histoire. L'histoire de la colonisation, des différents partis, les différents responsables locaux ont appelé à l'apaisement pour construire quelque chose d'équilibré. Jusqu'à aujourd'hui, dans le cadre des discussions, les revendications indépendantistes n'ont pas été entendues. C'est vrai, il y a urgence, mais il faut que les discussions se passent dans un cadre serein, apaisé et surtout équilibré. On ne peut pas imposer à une des parties un projet de loi constitutionnelle sans consensus local. Donc c'est ce qui a conduit un petit peu à toutes ces choses. Il va falloir trouver un consensus et que tout le monde se mette autour de la table pour pouvoir construire l'avenir. Mais il n'y a pas pire que ceux qui ne veulent pas entendre. Et aujourd'hui, le gouvernement, en 3 jours, il a détruit 35 ans de puits.
Dominique Fauchy au téléphone de Sarah Mansoura. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé hier soir que la flamme olympique ne passerait pas le 11 juin comme prévu en Nouvelle-Calédonie. Le blocage des prisons, les syndicats des surveillants pénitentiaires appellent à lever le mouvement après l'attaque mortelle d'un fourgon de transfert de détenus. C'était mardi dans l'heure. Le secrétaire général des Faux Justice note des avancées importantes pour permettre aux agents de travailler dans de meilleures conditions de sécurité. Attaque mortelle d'un fourgon pénitentiaire dans l'heure, tentative d'incendie d'une synagogue à Rouen, émeute en Nouvelle-Calédonie. Voilà la campagne des Européennes désormais percutée par les sujets nationaux. Des sujets qui occupent toute la place ou presque dans l'actualité. Et c'est une difficulté pour tous les candidats et particulièrement pour la tête de liste macroniste Valérie Ayé. Simon Le Baron.
Le sujet européen n'est pas toujours en haut de la pile, souffle un cadre de la campagne Renaissance. Et c'est un euphémisme. Or, Valérie Ayé a été choisie pour une raison, son sérieux, sa crédibilité sur l'Europe, censée mobiliser la base électorale macroniste. Alors forcément, admet l'un de ses proches conseillers, elle a du mal à exister. D'abord parce que sa parole est écrasée par celle du gouvernement, ensuite parce qu'elle est moins à l'aise que ses adversaires, et ses proches le reconnaissent, lorsqu'il s'agit d'aborder les sujets polémiques sur les plateaux télé. La candidate et son équipe travaillent donc là-dessus en ce moment et espèrent que les débats continentaux reprendront le dessus dans les toutes dernières semaines avant le vote. Il en reste 3. L'armée russe continue d'avancer vers Kharkiv dans l'est de l'Ukraine. C'est le sujet qui va monter, anticipe un communicant de la campagne, ce qui permettrait à Valérie Ayé et au camp présidentiel de reprendre leur discours initial. Ce qui se joue lors de ces élections, c'est la vie ou la mort de l'Europe.
Simon Le Baron, avec les JO, on a beaucoup parlé des réserves dans les hôtels ou chez les particuliers via les plateformes comme Abritel ou Airbnb. On a surtout parlé des prix qui un temps se sont envolés, mais pour les fans de sport qui ont déjà englouti leurs économies pour acheter les précieux billets pour assister aux compétitions, il ne reste plus grand-chose pour se loger, alors qu'il existe une alternative, celle de l'échange de logements. C'est une formule qui existe depuis 2011 en France. Bonjour Philippe Lefebvre, alors expliquez-nous comment ça marche.
Alors il faut tout d'abord être abonné, cela vous coûte 160 euros par an pour avoir accès au système. Ensuite, vous allez devoir donner des informations sur votre appartement ou votre maison, et c'est un algorithme qui va fixer la valeur du logement que vous voulez échanger. Mais attention, c'est une valeur virtuelle. On parle de points qui vous permettront de trouver l'équivalent en termes de surface de service ou de localisation par rapport à des sites touristiques, que ce soit en France ou à l'étranger. Le leader du secteur affirme aujourd'hui être présent dans 145 pays et revendique 165 000 utilisateurs dans le monde.
Et est-ce que c'est légal, Philippe ?
Eh bien, pour le moment, ce système échappe à tout contrôle, y compris celui de l'administration fiscale, parce qu'il n'y a pas d'échange d'argent. Mais cela risque de ne pas durer. À Amsterdam, par exemple, la ville envisage d'imposer aux particuliers qui échangent leur logement la possession d'une licence payante et le paiement d'une taxe de séjour, comme Airbnb. Mais ce système est encore très loin des 448 millions de nuitées réservées l'année dernière via la plateforme américaine.
Et enfin, quelles sont les garanties pour ceux qui prêtent leur logement ?
Eh bien, le système repose essentiellement sur la confiance, mais la plateforme dispose tout de même d'une assurance pouvant couvrir d'éventuels dégâts jusqu'à 1 million de dollars. Enfin, sachez que Jeux Olympiques oblige, eh bien, les demandes pour des échanges de logements avec les Parisiens pendant la période des JO ont augmenté de 300%.
Philippe Lefebvre.
Et puis, une inquiétude, Laurence, autour du youtubeur Inoxtag.
Il y a quelques mois, le célèbre influenceur s'est lancé le défi de gravir l'Everest, le plus haut sommet du monde. Mais depuis son départ, début avril, il n'a plus donné aucune nouvelle. Cette ascension réalisée dans la plus grande discrétion, pas d'images, pas de photos, pas de vidéos. De quoi inquiéter vivement ses fans, dont la plupart sont des adolescents. Victor Vasseur.
Depuis un mois, Sophia est anxieuse. Le voyage d'Inoxtag tracasse cette collégienne de 13 ans.
J'ai grandi en voyant ses vidéos et en étant au courant de ce qu'il fait, etc. Je me dis, est-ce qu'il va bien ? Parce que tu te dis que peut-être qu'il ne reviendra pas.
Elle y pense, même à l'école.
Parfois, en cours, les profs me disent que t'es pas focus avec nous.
Tous les jours, Alexia, 19 ans, écrit des messages sur Instagram pour soutenir le youtubeur.
Du coup, moi, j'ai très peur pour lui. Tous les soirs, je pense à comment il est, comment il va et tout.
Les fans comme Alexia doivent se contenter des rares images postées sur les réseaux sociaux par le guide d'Inoxtag, ce qui laisse libre cours aux fausses informations.
Inox, il est mort, ou il est tombé, ou sinon ils disent que Inox, il est monté en hélicoptère pour tricher.
Cette absence sur les réseaux a un objectif clair, explique Lucille Coquelin, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à Rouen.
C'est de créer une attente. C'est comme la stratégie du silence radio. Comment est-ce que ça viendrait créer du manque? Si il a bien réussi sa stratégie de communication, il y a de fortes chances que la prochaine vidéo qu'il mette en ligne où il va raconter cette ascension, c'est qu'elle cartonne.
Justement, le youtubeur et son équipe ne diront pas s'ils ont réussi ou non l'ascension. Ils réservent cette annonce pour un documentaire prévu en septembre.
Oui, ils avaient prévu de monter la semaine dernière s'il y avait une fenêtre météo. Mais en tout cas, rien n'a filtré dessus. Ajoutons qu'il a quand même près de 8 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube.
On croise les doigts pour lui.
C'était le journal de Laurence Thomas. À suivre, nos déclarations d'impôts dans l'édito Écho. Et puis portrait de l'ancien avocat de Trump dans la chronique. On va en reparler.
France Inter présente
le podcast Europe, anatomie d'une utopie.
Thomas Negaroff.
Né du rêve d'une paix éternelle et d'une prospérité partagée, le projet européen est aujourd'hui attaqué de toutes parts. Retour sur une expérience politique unique au monde, une série en 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Léonard Laborie.
Le podcast Europe, anatomie d'une utopie.
À télécharger sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
7h42.
La chronique Écho avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr.
La chronique Écho avec vous, surtout Alexandra Ben Saïd. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Alexandra, ce sont nos déclarations de revenus qu'il va falloir remplir pour les impôts.
Ouais, je vois que vous avez l'air surpris. C'est pas fait encore, Ali.
Mais ce n'est pas prélevé à la source.
C'est prélevé à la source, mais il faut regarder, vérifier, corriger. Alors, si vous préférez toujours les déclarations papier, peut-être que c'est votre cas, ça commence à devenir pressant. Vous avez jusqu'à mardi, le 21 mai. Si vous déclarez en ligne, selon le département, la date limite, ça peut aller jusqu'au 6 juin, mais vérifiez quand même. Oui, attendez, il y a une date limite au 23 mai pour les premiers départements. La nouveauté de cette année, ça va vous plaire, tiens. Ça peut se faire sur smartphone avec une appli impots.gouv.fr. C'est un peu comme lorsque vous commandez un repas, sauf que la livraison, elle est pixelisée dans l'espace et le temps, vous voyez. C'est pas dans 8 minutes, je vous livre chez vous 1 km de route nationale, une photocopieuse pour le palais de justice, des profs pour vos enfants et des chirurgiens au bloc. Et pourtant, c'est ça le rôle des impôts. Les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée. C'est inscrit sur le fronton du fisc américain, l'IRS. C'est beau, on est tous d'accord, mais le problème aujourd'hui, c'est que nombre de Français trouvent qu'en face du prix qu'ils paient, il n'y a pas assez. Pour l'école, pour l'hôpital, justement. Un mécontentement qui est bien capté à Bercy, vous vous en souvenez peut-être, l'année dernière, le ministre des Comptes Publics avait annoncé une campagne sur le thème « En avoir pour mes impôts ». Ça s'est un peu perdu, depuis il est devenu Premier ministre.
Non
ouais, mais oui, c'est Gabriel Attal.
Donc il y a eu une inquiétude sur le consentement à l'impôt.
Ces dernières années, les pigeons, les bonnets rouges, les gilets jaunes, Marion. Dans notre histoire, les révoltes fiscales ont déjà été beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus violentes, mais disons que le consentement à l'impôt reste en 2024 une matière vivante et inflammable. Là, je reprends les mots de l'économiste Pierre Boyer, qui vient de publier au PUF ce petit livre « Peut-on être heureux de payer des impôts ?»
Ça peut être formidable.
Ouais, ça peut être piquant, les économistes. Alors, ça dépend. D'abord, des contreparties, on vient d'en parler. Puis, de l'assurance que l'utilisation de l'argent public est bien contrôlée. C'est le rôle de la Cour des comptes. Puis, ça dépend du sentiment d'équité fiscale, de la confiance dans les institutions et enfin de la bonne compréhension du système des impôts et des cotisations. Et sur tous ces points, la France, elle peut mieux faire. Dans le dernier baromètre du Conseil des prélèvements obligatoires, 3 personnes sur 4 disent qu'on paie trop d'impôts. Alors cependant, si on leur demande si individuellement elles paient trop, là, elles ne sont plus que 2 sur 3. Autre chiffre, 8 personnes sur 10 sont d'accord pour dire que l'impôt est un geste citoyen. Et ce qu'on apprend aussi dans ce baromètre, c'est que la majorité n'a pas envie de toper pour un deal genre moins d'impôts contre moins de dépenses publiques. Peut-on être heureux de payer des impôts? Je spoil la réponse de Pierre Boyer.
Allez-y.
Pour faire le bonheur de ses contribuables, il ne suffit pas de baisser les impôts et pas de les augmenter non plus, je vous rassure. Il faut travailler sur tous ces déterminants de la satisfaction, bonne utilisation, équité, confiance et transparence. Et si vous ne me croyez pas, il paraît qu'il faut regarder du côté de la Finlande, du Danemark et de la Norvège. Là-bas, il semble bien qu'ils vivent ce qui nous semble impossible. Grosse pression fiscale et grand bonheur.
Grand bonheur, en tout cas, de vous retrouver tout à l'heure pour On n'arrête pas les ce sera juste après le journal de 9h au sommaire.
Une émission spéciale à J-100 des Paralympiques, avec nos lunettes éco.
A tout à l'heure, Alexandra, il est 8h moins le quart, on va en reparler. Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour Ali, bonjour tout le monde.
Portrait de la personnalité de la semaine, ce matin direction New York avec un témoin clé dans le procès pénal contre Donald Trump. Il s'agit de son ancien avocat devenu un ennemi juré et il s'appelle Michael Cohen.
Et l'ambiance est survoltée, Ali, devant le tribunal de Manhattan. Des dizaines de caméras pour celui qu'on surnommait le pitbull, le porte-flingue, l'âme damnée de Donald Trump.
Donald Trump's former lawyer and fixer, Michael Cohen.
Michael Cohen took the stand for a second.
Michael Cohen and the jurors.
Michael Cohen, c'est sûr qu'il n'y a pas si longtemps, il n'aurait pas hésité à prendre une balle pour protéger son président. Écoutez-le sur Fox News en 2017, au temps de la gloire. Donald Trump, dit-il, est un homme merveilleux.
I think he's a wonderful man. I think he's going to be an amazing president.
Il va être un grand président. Sa famille est fantastique. Il peut compter sur ma loyauté. Oui, mais ça, les amis, c'était avant. Contraste saisissant, le même Michael Cohen, 2 ans plus tard, en 2019, qui témoigne à Washington, à la Chambre des représentants, et qui dit avoir honte de lui-même.
I am ashamed because I know what Mr. Trump is. He is a racist. He is a con man. And he is a cheat.
Aujourd'hui, je sais qui est vraiment Donald Trump. Un escroc, un menteur, un raciste. Que s'est-il passé entre-temps? Notamment l'affaire Stormy Daniels, du nom de cette ex-star du porno qui affirme avoir été piégée, forcée dans une chambre d'hôtel par Donald Trump et dont on aurait acheté le silence moyennant 130 000 dollars.
Des versements maquillés pour éviter un scandale en pleine campagne électorale.
Oui, Marion, celle de 2016. Sauf que le Wall Street Journal finira par sortir une enquête avec Michael Cohen dans le rôle de l'exécuteur des basses œuvres. Il va craquer, avouer, faire de la prison, puis il écrira des livres, lancer un podcast intitulé « Mea culpa, ça ne s'invente pas ». De retour aujourd'hui à 57 ans dans le rôle du repenti.
Et qu'est-ce qu'il en pense, Donald Trump, sur le banc des accusés?
À votre avis, il fulmine le Donald, il nie en bloc, mais la justice le garde à distance pour pas trop faire pression. Vous l'entendez là, il parle de loin aux caméras, mais d'autres républicains se chargent d'être son porte-voix devant le tribunal et des dénonce une vaste blague. Imaginez un félon et une prostituée qui rentrent dans un bar, dit cet élu. Oui, ça commence comme une mauvaise blague. Et c'est le nerf de la guerre pour les défenseurs de Donald Trump, attaquer la crédibilité de Michael Cohen, convaincre les jurés sur le thème. Menteur un jour, menteur toujours. Oui. Pour l'instant, l'ex-avocat est malmené, mais il reste calme. Suite du procès dès lundi.
Merci Jean-Philippe Ballas. C'est à demain, il est 7h48 sur Inter.
Le 6-9, Marion Lourd, Ali Badou. sur France Inter.
Et notre invité ce matin est le patron de la Sécu, directeur général depuis 4 ans donc de la Caisse d'assurance maladie. C'est lui qui tient en quelque sorte les cordons de la bourse concernant les remboursements de nos médicaments, de nos consultations. Bonjour Thomas Fatome.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ce moment en négociation avec les médecins sur un projet de convention médicale qui encadre notamment les tarifs. Et on peut dire ce matin qu'il y a une certitude, la consultation des généralistes va passer à 30 euros au lieu de 26,50 euros aujourd'hui. Une quasi-certitude, parce que 30 euros, c'est ce que réclament les médecins. Et puis c'est aussi ce que vous proposez dans l'accord présenté hier. Alors la question, c'est notamment quand aura lieu l'augmentation. Là, vous proposez décembre. Ce projet d'accord, il est maintenant entre les mains des syndicats qui doivent se proposer. Le principal est plutôt réservé. Qu'est-ce que vous lui dites ?
Alors, on a beaucoup travaillé pendant 6 mois sur ces négociations. On a 48 heures de sprint final, là, ces 2 derniers jours, très intense. Je dis aux différents syndicats qu'il faut saisir l'opportunité d'avancer sur un accord qui est ambitieux, qui prévoit, en effet, vous l'avez dit, le passage à 30 euros de la consultation en décembre, si l'accord est signé rapidement, au lieu de 26,50. Donc, c'est une vitesse d'augmentation, honnêtement, assez inédite, qui répond, c'est vrai aussi, à un enjeu qui est l'enjeu de l'attractivité de la médecine libérale. On a besoin de médecins généralistes dans notre pays, vous savez, ils voient chaque jour 1 million de patients. 1 million de patients, c'est considérable.
Chaque jour.
Voilà. On dit, c'est très important, les urgences, ça joue un rôle très important dans notre pays, évidemment. Et ils font un boulot aussi remarquable. C'est 50 000 par jour. 50 000, 1 million. Donc si les médecins généralistes, entre guillemets, si on en a moins, et en ce moment, on en a moins. Parce que c'est vrai qu'il y a une perte.
500 par an. 500 ouais, de moins 500 l'an par dernier. An.
Exactement. Il y a une perte d'attractivité. Les jeunes médecins, ils hésitent parfois à s'installer, même si on en forme quand même de plus en plus, et le Premier ministre, vous savez, a annoncé une augmentation encore importante. Et donc, il fallait adresser ce signal, ce choc d'attractivité, avec honnêtement une augmentation très importante de passage à 30 euros. C'est des augmentations significatives. Sur cette seule mesure, c'est plus de 700 millions d'euros. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec les syndicats de médecins. Moi, je leur dis, il faut maintenant saisir l'opportunité, dans les prochains jours, de signer ce projet de convention. Important aussi pour l'accès aux soins des patients. On y reviendra peut-être, parce qu'en face de cette valorisation, il y a aussi des engagements sur l'accès aux soins et sur la qualité des pratiques.
On y reviendra, bien sûr. Mais la Fédération des médecins de France, elle, ce qu'elle dit, c'est à peine un rattrapage de l'inflation. Donc, ça ne suffit pas. Ils en demandent trop, les médecins. Ils font des enfants gâtés, en quelque sorte ?
Non, écoutez, moi, d'abord, il y a une négociation importante. Le dialogue social, c'est des revendications. Ce que je dis, c'est qu'en effet, l'assurance maladie, elle est allée loin dans ses propositions. Elle a aussi adapté son calendrier. Ça a été aussi des sujets de discussion. Et voilà, la dernière revalorisation, c'est 1,50 €. On est passé de 25 à 26,50 €. La dernière fois, c'était 2 €. On n'est jamais allé aussi vite. Et puis, il y a aussi d'autres mesures, hein, pour les pédiatres, pour les psychiatres. On améliore le système de l'assistant médical, on y reviendra peut-être. On accompagne aussi davantage les missions des médecins traitants, avec un forfait médecin traitant qui va augmenter. Donc, il y a vraiment 1,6 milliard d'euros sur la table de la part de l'assurance maladie. Donc, voilà, c'est un investissement significatif et c'est un accord ambitieux pour les médecins libéraux et pour les patients.
Et s'ils disent non, vous avez les moyens de proposer plus, parce qu'on est dans un contexte d'économie en ce moment.
Honnêtement, s'ils disent non, il se passera rien. On revient à ce qu'on appelle dans notre jargon techniquement le règlement arbitral. Et donc, honnêtement, on sera dans une situation de
règlement arbitral.
C'est-à-dire qu'on reste à 26,50 €. Ça sert de convention actuellement. On peut pas faire d'avenant, donc on peut pas modifier le système. On a fait le choix justement de faire revenir à la table des négociations en novembre dernier parce que on se satisfaisait pas de ce règlement arbitral. Il portait pas d'évolution, de transformation. Et donc, c'est vrai qu'il faut bien réfléchir quand on se dit, est-ce que c'est l'accord absolument rêvé par tous les syndicats? Je ne sais pas. Par définition, sûrement pas. C'est le dialogue social. Un accord, c'est toujours un compromis. C'est aussi un compromis pour l'assurance maladie. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas d'accord, et bien là, il ne se passera rien. Et je crois aussi, on a beaucoup discuté avec les syndicats médicaux, que un deuxième échec après celui qui est intervenu au bout de 2023, les gens pourront s'interroger pour savoir si est-ce que ce système, finalement, de discussion conventionnelle entre l'assurance maladie et les médecins, est-ce qu'il marche bien. Donc, je pense que chacun doit bien mesurer dans les jours qui viennent que ce qui est sur la table est historique et ce qui est sur la table, je pense, doit nous permettre de transformer le système de santé en profondeur.
Historique, et malgré tout, il y a l'éternel retour d'une même question. L'objectif des dépenses de l'assurance maladie qui a été adopté par le Parlement pour 2024, elle correspond à une augmentation de 3,2% par rapport à 2023. L'augmentation naturelle, si on tenait compte de l'inflation, elle avait été estimée par les services du ministère de la Santé à 4,6, ce qui veut dire que vous allez manquer de 3,5 milliards d'euros. Est-ce que la spécificité française, ça n'est pas le trou de la sécu, comme on dit ?
Alors, vous savez, tous les systèmes de santé dans le monde, ils sont confrontés à ça. C'est-à-dire des dépenses qui mécaniquement augmentent parce qu'on a plus de population à couvrir, parce qu'on a plus de personnes âgées, parce qu'on a plus de maladies chroniques. Et puis c'est, le vieillissement, c'est quand même en soi une bonne nouvelle, entre guillemets.
Il faut donc prendre en charge.
Mais oui. C'est pour ça aussi que dans cet accord...
Il y a deux manières pour le résorber. Ou on augmente les recettes, ou on réduit les dépenses. Est-ce qu'il faut réduire les dépenses de santé?
Pardon, j'en rajoute une troisième.
Allez-y.
Il y a aussi mieux dépenser. Dans cet accord avec les médecins libéraux, il y a 15 programmes d'action autour de la qualité et de la pertinence des soins. Pourquoi on prescrit 25% de plus d'antibiotiques que les autres pays européens? Pourquoi on a des dépenses d'arrêt de travail qui augmentent fortement? C'est évidemment, dans la plupart du temps, justifié, mais pas toujours. Et donc, on peut, avec les médecins libéraux, faire évoluer les prescriptions. Les prescriptions, c'est 57 milliards d'euros.
Mais pourquoi est-ce que la France occupe la deuxième place, juste derrière les États-Unis, en matière de coûts de gestion du système de santé? C'est 6% des dépenses de santé, je vous vois lever les yeux au ciel, mais c'est deux fois plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Est-ce que ça, c'est normal?
C'est parce qu'en fait, on a. Je permettais de lever les yeux au ciel parce qu'en fait,
vous êtes libre de vos yeux.
C'est lié à en fait, le fait qu'on a un double système de gestion. On a un système public, l'assurance maladie obligatoire, et on a un système privé, les complémentaires santé.
Oui.
Donc ça s'additionne. Il faut bien distinguer quand même des dépenses publiques et puis des dépenses privées qui sont les complémentaires. Et c'est vrai que je réagissais parce que l'assurance maladie obligatoire, elle fait beaucoup d'efforts pour maîtriser ses coûts de gestion. Elle a beaucoup diminué ses coûts de gestion depuis 20 ans. On est à moins de 3%. Mmh. À moins de 3%. On fait un métier complètement différent des complémentaires santé. Elles sont en concurrence, etc. Donc, faut pas comparer un 3% de l'assurance maladie obligatoire et un 20% des complémentaires santé. Mais c'est vrai que quand on a des comparaisons européennes sur les coûts de gestion du système français, on dit, ah bah, c'est beaucoup. Voilà. Il faut faire attention. Le coût de gestion public du système de santé, il est très faible. Il est maîtrisé et l'assurance maladie fait des efforts pour que ça pèse le moins possible sur les ménages.
Est-ce que c'est pas le signe indicateur qu'on arrivera finalement à un moment où on sera fini de l'État-providence? En France.
Cet État-providence, il doit se renouveler, il doit évoluer,
donc oui.
Il doit s'adapter. Donc non, je crois que la sécurité sociale, l'assurance maladie, c'est quand même un bien précieux. On l'a vu pendant le Covid.
Bien sûr.
En période extrêmement, extrêmement grave, on était quand même là pour financer des tests, pour financer de la vaccination. Maintenant, ça, c'est vrai qu'il fait face à des défis financiers très importants. Mais je reviens sur le fait de mieux dépenser. C'est pas une formule en l'air. On sait qu'il y a beaucoup de zones de ce qu'on appelle d'inefficience dans le système de santé. Il y a un parcours de soins qui est pas suffisamment bien organisé. Nous, à l'assurance maladie, par exemple, de plus en plus, on travaille avec les hôpitaux pour organiser la sortie d'hôpital. On investit sur la prévention. On a monté, là, depuis le début de l'année, 7 plateaux d'appels qui vont appeler les gens pour qu'ils se fassent dépister sur le cancer du sein. La meilleure dépense, c'est celle qu'on ne fait pas, parce qu'on prévient la maladie. Et donc, mieux dépister les cancers, dépistage obligatoire du cancer du sein, du cancer colorectal, et bien ça, c'est des choses sur lesquelles l'assurance maladie également s'engage. Donc, on est mobilisé pour rembourser les soins, bien sûr, mais pour améliorer l'efficacité du système de santé.
Mais Thomas Fatto, mais effectivement, vous le disiez, l'objectif de cette convention qui est négociée avec les médecins, c'est de permettre l'accès de tous aux soins. Parce que, par exemple, 83% des Français résident dans un désert médical, soit pour un généraliste, soit pour les gynécologues, soit pour les pédiatres. Comment est-ce qu'on peut rendre cette profession de médecin attractive, résoudre ce problème des déserts médicaux, si on ne les revalorise pas plus que cela? Si, par exemple, les psychiatres continuent d'être payés à peine quelques euros de plus que les psychologues?
Alors d'abord, là aussi, les psychiatres vont être fortement revalorisés dans ce projet de convention. Ils vont
L'écart va rester de quelques euros.
Alors les psychologues à 50 euros, c'est pas encore fait. Hein, voilà, les psychiatres, on va les passer. Oui, oui. Mais d'abord, encore une fois, l'augmentation, elle est quand même très significative. C'est 13% quand même pour les médecins généralistes. Hein, 26,50 à 30 euros, on se dit, bah ça, c'est que 3,50, mais c'est quand même plus 13%. Et sur les déserts médicaux, là aussi. Le projet de convention prévoit des mesures importantes. Les contrats démographie, les contrats qui aident les médecins à s'installer, ça marche pas bien. Ils les signent pas, ils les connaissent pas, et ça ne déclenche pas l'installation. Là, on change complètement le système. On a un système automatique qui va passer par une augmentation du forfait médecin traitant, qui va être à la fois pour les médecins qui s'installent et pour ceux qui exercent dans les déserts médicaux, parce que ceux-là, ils sont confrontés à la pression des patients légitimes, et donc on va les soutenir ceux qui exercent déjà. Autre mesure, on va mettre en place ce qu'on appelle des consultations avancées. Notamment des spécialistes, mais aussi des généralistes pourront le faire, qui par exemple travaillent dans une agglomération, on leur dit bah, si 2-3 demi-journées par semaine ou par mois, vous allez projeter votre activité médicale dans un désert médical. Dernière mesure, l'assistant médical, celui qui va soutenir le médecin, le décharger de ses tâches administratives. On va encore améliorer le dispositif, on augmente l'aide dans la convention médicale. On a passé les 6500 contrats d'assistant médical là, il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est un ensemble de dispositifs qui vont soutenir les conditions de travail des médecins. Et c'est vrai, encore davantage dans les déserts médicaux. Donc on pense qu'on adresse bien ce signal d'attractivité et qu'on a des mesures opérationnelles sur les déserts médicaux. Après, c'est plein d'autres choses, hein. Les maisons de santé pluriprofessionnelles, par exemple, ça aide à l'installation dans les zones sous-denses. Donc voilà, on se mobilise là-dessus.
Les zones où il y a peu de médecins, peu de professionnels. Et ben, on verra ce que vous répondent les syndicats. Thomas Fatome, directeur général de l'assurance maladie, merci d'être venu sur France Inter ce matin.
Merci.
Bonjour, je m'appelle Boris. Je suis expert solutions énergétiques EDF pour les entreprises. En ce moment, beaucoup de clients me demandent comment réduire l'empreinte CO2 de leur entreprise. Ils savent que c'est important pour la planète et leurs factures. Ils veulent passer à l'action. Alors avec notre offre Décarbone, nous programmons ensemble une visite qui les éclaire sur leur impact CO2 et je leur propose des solutions adaptées à leur entreprise. Et ça, c'est mieux pour la facture.
EDF. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Ça, c'est le bruit que fait un véhicule circulant à vive allure. Ça, c'est le son émis par une intervention au bord de la route. Et ça, c'est ce que l'on peut entendre si un conducteur circulant à vive allure ne fait pas attention à ces personnes en intervention sur le bord de la route.
Intervention en cours, je ralentis, je m'écarte, j'évite le pire. Ceci est un message de la sécurité routière en partenariat avec l'ensemble des acteurs qui travaillent pour votre sécurité sur la route.
France Inter, partenaire de Requiem, la nouvelle création d'Angelin Préjocage. Chaillot Théâtre National de la Danse présente du 23 mai au 6 juin à la Villette, Requiem.